Vous écoutez RTL.
14h-15h.
Place maintenant à l'Opéra Rock, donc au Palais des Congrès Starmania.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir.
RTL.
Mais on fait peur à voir.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour à tous, Starmania fête ses 40 ans, on va partager cette histoire tous ensemble. C'est la curiosité, c'est parti pour une heure de bonheur, de révélation, de secrets et de bonne humeur avec Sidonie, bonjour.
Bonjour Thomas, salut les curieux des sagas musicales mais aussi de l'histoire, de la science, de la nature, des grands destins, la langue française aussi et tout ce qui fait notre quotidien, c'est ce qui nous passionne chaque jour sur cette première radio de France.
Et donc on s'offre un opéra rock pour commencer. Bonjour François Alquier.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Bienvenue, vous êtes journaliste culture, auteur de plusieurs livres musicaux, on vous avait reçu dans la curiosité. Je crois que c'était il y a deux saisons pour parler de Louane, évoquer sa jeune carrière. Aujourd'hui, on vous a donc invité pour célébrer cet anniversaire, celui de Starmania, l'album qui sort en 78. Bon, il faut poser les bases. Qui en a l'idée? Qui lance le projet Starmania?
Qui lance véritablement, c'est vraiment Michel Berger, ouais. Qui avait l'intention de faire son premier opéra rock. C'était un fantasme qu'il avait depuis très longtemps. Et puis, il s'est donc intéressé à cette histoire de ce fait divers de Patty Hearst. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la fille d'un magnat de la presse, celui qui a inventé la presse à sensation. Et...
Donc on est en France ou aux États-Unis?
Non, aux États-Unis. Ouais. Ouais. Donc c'est Patty Hearst qui se fait enlever par une bande d'anarchistes et puis qui soudain tombe amoureuse de son geôlier principal. Et donc elle va épouser la cause de ces anarchistes, va même braquer une banque et va se faire arrêter, aller en prison, etc.
Et donc cette histoire l'inspire. C'est aussi la trame de Starmania, finalement.
C'est un petit peu la trame de Starmania, parce qu'en fait, quand Michel Berger a parlé à Luc Plamondon pour la première fois, il lui a dit...
Le co-auteur, pardon.
Pour moi, ce sont des évidences, donc vous faites bien de le lire. Il a dit à Luc Plamondon, voilà, j'aimerais écrire, enfin, que vous écriviez une comédie musicale sur cette affaire Patty Hearst, que lui connaissait aussi. Mais il a dit, non, on va pas faire que ça, parce que ça va plomber l'ambiance. Une comédie musicale, c'est fait pour qu'il y ait des sentiments, enfin il y en a d'ailleurs dans l'affaire, mais qu'il y ait beaucoup de choses, ouais. ça suffisait pas. Donc en fait, Luc Plamondon s'est servi de cette affaire-là et a brodé autour et inventé d'autres histoires.
Donc en 78 sort l'album Starmania, il y a Michel Berger et France Gall, évidemment ils sont déjà des stars à l'époque.
France Gall oui quand même un petit peu, Michel Berger moins. On savait qu'il était avec France Gall, qui lui écrivait quelques tubes, mais c'était pas encore le grand Michel Berger qu'on a connu après.
Il parle d'un opéra rock, vous l'avez dit, vous avez employé ce mot, et pas d'une comédie musicale à l'époque. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change?
Parce que ça change beaucoup pour lui, parce qu'il trouvait déjà le terme comédie musicale un peu désuète. C'était comme si on parlait d'opérette, pour lui c'était un peu la même chose. Et comme il faisait du rock, que Starmania c'est aussi du rock, il y a quand même des instruments de musique, guitare électrique, etc. Et un peu avec des violons aussi, donc ça faisait un peu opéra rock. Il s'est dit, c'est comme ça qu'on va l'appeler, et je ne veux pas qu'on appelle Starmania autrement qu'avec cette appellation.
Et comment va réagir le patron de la maison de disques, Warner? Qu'est-ce qu'il pense de cet opéra rock? Il pense que ça va se vendre, que c'est une bonne idée?
Alors, il aime beaucoup Michel Berger, qui était un de ses directeurs artistiques.
Ça donc, commence mal. Je vous aime beaucoup, mais...
Non, mais c'est un peu ça. Il lui a passé cette espèce de lubie qu'avec Michel Berger depuis des années. Il lui en avait parlé beaucoup. C'est Bernard Bosson. C'était le patron de Warner pendant 16 ans à peu près. Et il a dit, bon, c'est quoi ton truc de comédie musicale? Je comprends rien. Mais bon, je vais te donner de l'argent, fais-le. Comme ça. Et il a donné beaucoup d'argent.
Sans rien entendre.
Sans rien entendre.
Ouais. Et ils ont eu raison, puisque ça a marché. Le 11 septembre 78, l'album Starmania sort. On va écouter plusieurs extraits, évidemment, et quelques chansons en entier, avec ce titre en ouverture.
Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville.
Quand on arrive en ville avec Daniel Balavoine dans le rôle principal, on s'en souvient, celui du terroriste Johnny Roquefort. Est-ce que c'était le premier choix de Michel Berger, Daniel Balavoine?
De Michel Berger, oui, c'était le premier choix. Maintenant, les producteurs étaient un petit peu mitigés sur la question parce que d'abord, Daniel Balavoine était un peu poupon, un petit peu gros même, il mangeait des sandwichs tout le temps, tout ça. Il n'avait pas l'air d'un terroriste. Donc il se disait, mais non, Balavoine, terroriste, ça ne va pas du tout. Sauf que Berger...
Vous pensez à qui alors?
Bon, il y a des noms qui ont circulé, projets, dont Johnny Hallyday, mais Johnny Hallyday était trop cher et puis il voulait pas faire, il avait pas besoin de ça pour sa carrière, quoi. Ça l'intéressait pas du tout. Donc en fait, Berger un jour regarde la télé avec France Gall et voit Daniel Balavoine chanter Lady Marlène. Et France Gall dit à Michel Berger, mais c'est ce gars-là qu'il nous faut pour Johnny Roquefort. Quelle voix, il a une présence. Alors certes, il fait pas terroriste, mais il a tout le reste.
Mais ils vont le transformer physiquement? Est-ce qu'ils vont lui faire perdre du poids ou l'habiller de telle sorte qu'il ait l'air un peu nerveux et terroriste?
L'attaché de presse, Grégoire Collard, d'attaché de presse de Michel Berger, m'a confié, bon, ça c'est pas dit dans le livre, mais qu'on lui avait demandé d'arrêter les sandwichs.
Oui, c'est vrai. Et puis de toute façon, quand on joue sur scène tous les soirs, on brûle des calories, voilà, donc ça a dû bien se passer. François Alquier, vous publiez L'Aventure Starmania chez Hors Collection et vous y racontez que justement Daniel Balavoine n'était pas très chaud, pas très motivé à l'idée de participer à cet opéra rock. On vous explique pourquoi dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
C'était il y a 40 ans, le 11 septembre 1978, la sortie de l'album Starmania. On vous raconte l'histoire d'une machine à tube avec le journaliste François Alquier. Comment cet album Starmania, quand il sort, est accueilli par le public?
Froidement, au départ.
Ah oui.
Ouais, ils ont eu du mal à le vendre, en fait. Ça a été compliqué, ça a mis des mois, et ce sont les radios, dont la vôtre, qui ont commencé à passer régulièrement les uns contre les autres, quand on arrive en ville, et du coup les gens se sont au bout d'un moment intéressés à l'album, mais ça a pris au moins 8 mois avant que ça commence à marcher, quoi. Donc il y a eu beaucoup d'inquiétudes, hein.
Daniel Balavoine qui interprète le premier rôle masculin, est-ce qu'il est déjà, c'est déjà une énorme star en France?
Pas du tout. En fait, son album Le Chanteur venait de sortir. Le Chanteur est sorti, donc la fameuse chanson, est sortie en même temps qu'il a participé à Starmania. Donc en fait, il a connu le succès avec ce 45 tours en même temps que le succès avec les tubes de Starmania.
Mais je disais tout à l'heure, juste avant la pub, que Balavoine n'était pas très chaud à l'idée de participer à Starmania. Est-ce que c'est un peu pour ça?
Ah bah pour cette raison, principalement parce que il avait peur que les gens ne comprennent plus rien à l'œuvre de Balavoine, en fait. Il avait le chanteur qui était diffusé partout, ouais. Et puis c'est quand on arrive en ville, les banlieues nord de Starmania qui étaient aussi beaucoup diffusées. Il avait peur qu'on fasse l'amalgame entre les deux chansons de Starmania et son propre répertoire, de
l'ombre à l'autre, en quelque sorte.
Finalement, ça lui a servi. Qu'est-ce qu'il en dit des années après de Starmania?
Alors, des années après, quand on lui demande, bon, alors l'expérience Starmania, ça vous a amené quoi? Il dit, rien, j'ai pas vraiment aimé l'expérience, je suis pas fait pour bosser avec d'autres personnes, mais ça m'a permis de rencontrer Michel Berger et France Gall, et on est devenus amis grâce à ça. Et voilà pourquoi j'aime Starmania.
Et c'était vraiment un trio, c'était vraiment des amis?
Oui, c'est devenu. Au départ, pas vraiment. Au départ, c'était surtout Daniel Balavoine et Michel Berger. France Gall était un petit peu agacée par cette amitié parce que Balavoine était quelqu'un de turbulent, il aimait bien charrier tout le monde. Et puis, du coup, Berger, là-dedans, il changeait un petit peu.
Il devenait
un peu un Balavoine,
ouais.
Et France Gall n'aimait pas beaucoup ça, quoi. Après, ils sont devenus amis pendant des années et des années.
Cette voix magnifique de Daniel Balavoine, il y a d'autres grandes voix dans Starmania, bien sûr, comme celle de Fabienne Thibault.
Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas.
Quelque chose, ça me file des frissons. J'adore Starmania et la voix de Fabienne Thibault, c'est du bonheur à chaque fois.
Et c'est vrai que Starmania, c'est un projet franco-québécois. Comment les chanteurs finalement cohabitaient? Il est de deux continents différents.
Alors c'était vraiment un concours de celui qui avait la plus grosse, si je puis dire.
La plus grosse voix, bien sûr.
Vous m'avez compris. Ouais. En fait, il y avait.
Tout à l'heure, on va parler des expressions qui ont du corps. D'accord. Humain, donc on va peut-être
je le savais,
celle-là,
donc j'ai anticipé.
Ouais,
non, mais en fait, réellement, il y avait une concurrence entre les Québécois et les Français, et notamment entre Diane Dufresne et Daniel Balavoine, qui tous les deux prétendaient avoir la plus belle voix que l'autre. Ouais. C'était vraiment un peu un comportement de cours de récréation, quoi.
Mais c'est super parce que finalement ils se boostaient, ces artistes, dans Starmania. Ils ont porté l'opéra rock au top de sa qualité.
Et bien sûr, ils essayaient tous d'être performants, de montrer à l'autre qu'il était le meilleur. Donc du coup, ça donne des bons concerts, quoi.
Daniel Balavoine qui avait parfois la moutarde qui lui montait au nez. J'anticipe toujours sur les expressions qui ont du corps. Tiens, par exemple, il y a une anecdote que vous racontez dans l'aventure Starmania chez Hors Collection. Ça se passe pendant un concert. Il y a un spectateur qui se comporte pas bien. Racontez-nous la suite.
Voilà, il y a à chaque fois que, pendant ce concert-là spécifiquement, à chaque fois que France Gall rentrait sur scène, il y a un homme qui sifflait tout le temps. Et puis, pendant tout le concert, il siffle.
Mais elle l'entend, tout le monde entend,
et puis ça perturbe carrément tout le monde, quoi. Et ça énerve. Et Balavoine, c'était pas quelqu'un de très calme. Donc, il était vif. Pendant le salut final, il repère la personne qui sifflait. Il descend, il était en costume argenté, hein, vraiment habillé en Johnny Rockford, très kitsch. Et puis, il l'empoigne et il lui dit « Tu vas fermer ta gueule », et il le bat.
Il le frappe
violemment. Et Étienne Chicot, à un moment, voit Balavoine en train de faire ça.
C'est qui Étienne Chicot ?
Ah, Étienne Chicot, c'est celui qui tenait le rôle du businessman.
Ah oui, comédien.
Comédien qui vient de décéder il y a à peine 3 semaines et qui tenait donc un des rôles principaux de la première version.
Qui était assez pote avec Balavoine.
Et qui était très pote avec Balavoine.
Il vient
et puis il aide Balavoine à casser la gueule à la personne.
Ça fait une polémique.
Et après, ils ont appris, je finis, parce qu'ils ont appris que c'est un invité. Et donc ça les a doublement énervés, donc ils ont remis une couche.
Ah, parce qu'en plus il n'avait pas payé sa place, non, et il sifflait. Oh, ça fait beaucoup quand même.
Daniel Balavoine, c'est une voix exceptionnelle. On parlait du concours de voix entre les Français et les Québécois. Je ne sais plus combien d'octaves il a à son répertoire, mais on va écouter là dans quelques secondes SOS d'un terrien en détresse. Elle a une histoire, cette chanson. Elle était prévue au répertoire de Starmania.
Dans l'album Bleu, le premier en 78, il n'y a pas cette chanson. D'accord. En fait, cette chanson était rajoutée quand Michel Berger s'est rendu compte qu'il pouvait pousser dans les aigus, enfin Balavoine pouvait pousser dans les aigus vraiment de manière extraordinaire. Il s'est dit, je vais créer une chanson juste pour lui et il va falloir se donner à fond parce que ça ne va pas être évident à chanter. Quoi. Ouais.
Tiens d'ailleurs, vous pouvez nous aider, vous pouvez réagir au 3210, je crois que c'est 0,50 centimes la minute, il faut dire ça maintenant ou l'appel. Mais si vous savez combien d'octaves avait Daniel Balavoine à son répertoire, eh ben, réagissez au 3210, on donnera l'info dans un instant.
Starmania, qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas, toi ?
Jusqu'à 15h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On dort les uns contre les autres.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est vraiment le monde d'aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, c'était le monde de demain.
Starmania fête ses 40 ans, 11 septembre 78, l'album signé Michel Berger et Luc Plamondon sort avant de devenir un énorme succès sur scène l'année suivante. On raconte cette saga avec le journaliste François Alquier. Donc vous nous disiez tout à l'heure que l'album a mis du temps à démarrer. Il sort quoi, une grosse année avant le premier spectacle?
À peu près, c'est ça. Et en fait, le spectacle dépendait du succès du disque, évidemment. D'accord. Parce que si le disque n'avait pas du tout marché, on aurait replié bagage.
Et le patron de la Warner, ce serait...
Je pense que là, se serait fait taper par les actionnaires américains.
Aujourd'hui, 40 ans après sa sortie, alors ça je savais pas, mais j'ai découvert ça dans votre livre, c'est l'un des albums les plus vendus de l'histoire de France. Il y a plus de 2 millions d'exemplaires. Ça le place en quelle position des albums les plus vendus?
Je crois que c'est en 7e place des albums les plus vendus en France.
Ah oui, c'est
quand même énorme. Mais c'est une usine à tubes, hein. Il y a 20 chansons, il y a au moins 10 tubes.
Oui, et puis il y a eu plusieurs versions avec plusieurs chanteurs.
Est-ce qu'on peut dire que ça a relancé? Parce que là, cette rentrée, il y en a peut-être un peu moins, mais la rentrée dernière, il y a, je ne sais plus, 4 ou 5 comédies musicales qui devaient se lancer en quelques semaines.
Donc oui, d'ailleurs.
Mais oui, est-ce qu'on peut dire que Starmania a relancé les comédies musicales en France?
J'ai toujours du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, j'en sais rien, très, très franchement. Je pense que ça a permis qu'il y ait des comédies musicales originales parce que Starmania, en fait, c'était original. Ouais. Il y en a eu avant, mais c'était sur la Révolution française, c'était R, donc des choses déjà existantes. Ça a incité peut-être des gens à créer des comédies musicales originales.
Parmi les interprètes de Starmania, il y a aussi Morane. On l'écoute chanter la complainte de la serveuse automate.
Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'underground café.
Morane, qui a signé la préface de votre livre quelques mois avant sa disparition. Vous nous avez dit tout à l'heure que Daniel Balavoine gardait pas un super souvenir de Starmania, même s'il était ravi d'avoir rencontré évidemment et travaillé avec Michel Berger. Morane, elle gardait quel souvenir de Starmania ?
Alors mitigé, un bon souvenir, parce que c'était, elle savait qu'elle était dans une aventure extraordinaire musicalement, mais ça s'est mal passé parce qu'elle a quitté deux fois de suite à une semaine d'intervalle la scène. Elle n'est pas venue tout simplement parce qu'elle a eu ce qu'on appelle un burn-out, mais elle avait prévenu l'équipe de production, les artistes, Michel Berger, Luc Plamondon, elle avait dit « je suis crevée ». Son premier album sortait, elle avait un tube, elle faisait de la promo et pour son album perso et pour Starmania.
Là,
elle était épuisée. Là, on est en 88, pardon,
oui, vous avez raison, 88.
Mais alors, elle est remplacée au pied levé, ça bouleverse complètement l'opéra rock, Starmania.
Ça veut dire qu'il y a eu une petite semaine d'interruption et ils ont trouvé, mais c'était un miracle, c'est Coco Balavoine qui était la compagne de Daniel Balavoine, regarde un jour la télé chez Jacques Martin, une nana qui s'appelle Réjeanne Perry, une Québécoise qui chantait admirablement. Comme Coco Balavoine faisait partie de l'équipe de Starmania, elle a dit à Michel Berger, j'ai trouvé la remplaçante, c'est Réjeanne Perry. En quatre jours, elle a repris le rôle de Morane.
Elle a appris les textes.
Elle l'a regretté, ça, Morane ?
Elle l'a un peu regretté parce qu'elle sait très bien que ça fait un peu de mal à la production et puis que ce n'est pas des choses qui se font dans le métier, quoi.
Il y a eu beaucoup de versions, parce que là, on parle de la version 88, avec beaucoup de distributions, de castings différents. Il y en a eu combien ?
Il y a eu trois versions. Oui. En 78, en 79, donc sur scène, 88 et après en 93.
C'est pour ça qu'on peut parler d'aventure Starmania, c'est le titre de votre livre ?
Bah oui, parce qu'en fait, il y a eu trois versions, il y a eu beaucoup d'artistes, de techniciens, de producteurs dans tout ça, et donc il s'est passé plein de choses, et c'est ce que je raconte dans ce livre, avec plein d'anecdotes en fait.
Et tous les chanteurs de cette première version là, de 78 de Starmania, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Est-ce qu'ils ont tous explosé ? Pas explosé en vol, mais ils ont tous cartonné, ça les a lancés.
Dans la première version, c'est là où il y a Diane Dufresne, donc elle est encore là, Fabienne Thibault, elle est encore là, bon, Daniel Balavoine, France Gall ne sont plus là, mais je crois que c'est la seule version où les gens ont eu du succès toujours, ce qui n'est pas le cas des autres versions. Je crois que dans la version de 88, il n'y a que Morane qui a fait une carrière. On peut aussi parler un petit peu de Renaud Hanson, mais il est moins connu. Et puis dans la dernière version, il n'y a qu'Isabelle Boulay que l'on connaît encore, qui jouait le rôle de Marie-Jeanne, que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc en fait, Starmania n'a pas toujours signifié le succès à vie des artistes qui ont interprété l'œuvre.
Et je parlais de Starmania avec ma fille et une de ses copines. Elles ont 22 ans hier soir et elles sont fans de cette opéra rock. Elles me disaient, mais quand est-ce que ça se remonte ? Est-ce qu'il y a des projets ?
Alors, c'est la grande question. Normalement, il devait y avoir une version en 2018. On espère qu'elle aura lieu en 2019. Luc Plamondon est en train de travailler dessus.
Pour les 40 ans du premier spectacle.
Voilà.
D'accord. Starmania qui plaisait à tout le monde dans les années 80. D'après vous, quel homme politique, très fan d'une des chanteuses, venait assister incognito aux représentations ? Pour la réponse, il faut rester avec nous sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
On découvre le secret de l'aventure Starmania, l'opéra rock qui fête ses 40 ans et nous sommes avec le journaliste François Alquier. Il y a eu plusieurs distributions, plusieurs versions et dans la version de 88, il y a par exemple la chanteuse Venta qui reprend le rôle créé par Diane Dufresne et qui chante travesti.
Je suis un travesti.
Et avec vous, François Alquier, on découvre que dans cette version de 88, il y avait un fan un peu particulier. Qui est-il ?
Oui, c'était le président de la République. François Mitterrand, qui en fait au théâtre des Champs-Élysées, là où se passait cette troisième version, il allait souvent parce que l'Élysée était juste à côté et il allait voir de temps en temps Starmania. Il a dû assister à 4 ou 5 représentations.
C'est Starmania qu'il aimait ou
oui,
une chanteuse en particulier ?
Au départ Starmania, l'œuvre, et puis au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que Starmania mais celle dont vous parlez, Venta, qui jouait le rôle de, j'ai un trou de mémoire au moment où j'en parle,
Nadia ? Non, y a pas, c'est pas Nadia, c'est un
Sadia.
Prénom un peu... Sadia, voilà, je suis pas loin.
Ouh là là, ça va plus, moi, si je connais
plus. Tout va bien.
Il va demander à la rencontre.
Voilà,
et alors, en fait, le truc, c'est qu'il arrive en retard. Ouais. Donc, il n'assiste pas à la première chanson de Venta. Venta le sait, elle est vexée et va lui dire à la fin du spectacle, quand François Mitterrand vient saluer tout le monde dans les coulisses, lui, pas habitué à ce qu'on lui dise quoi que ce soit, lui dit non, ça se fait pas d'arriver en retard à un spectacle. Du coup, il a apprécié la personnalité de Vanta, oui. Et qui est très jolie. En plus, donc voilà, ils sont.
Et alors, quelques jours plus tard, il l'invite à l'Élysée.
À l'Élysée, en tête à tête.
Comment ça se passe? Il la drague un petit peu.
Il la dragouille avec respect. Il essaye de voir, il tape le terrain, mais Vanta était avec quelqu'un. Il tape le terrain, j'ai dit. Hein.
Ah oui, c'est une belle expression pour parler de drague.
Pas fait exprès. Et Vanta n'arrête pas de lui dire qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Enfin bon, elle ne se met pas en position.
Mais François Alquier, il faut raconter quand même l'anecdote qui est quand même dingue. C'est à un moment du déjeuner, François Mitterrand demande au majordome d'aller chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui demande d'aller chercher?
Il lui demande d'aller chercher... Alors, elle pense que c'est un truc qui va être gênant, une bague ou quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, je crois que c'était des truffes.
Une truffe du Périgord.
Voilà. Du Périgord. Donc, en fait, c'était un geste très sympathique.
Terrain, ouais. En effet.
Non, alors, je veux quand même...
Jusqu'où cette histoire?
C'est allé jusqu'à nulle part, en fait.
Ils se sont écrits
une belle histoire d'amitié. François Mitterrand écrivait régulièrement à Vanta. Il y a d'ailleurs un facsimilé dans le livre d'une des lettres de François Mitterrand, mais c'était très respectueux. Je crois qu'il avait beaucoup d'affection pour elle et il l'écoutait notamment pour ses positions écologiques. À l'époque, elle était très investie là-dedans et elle parlait beaucoup avec François Mitterrand de ces problèmes-là.
Il y a un poste à pourvoir en ce moment.
Je sais.
Vanta, si vous nous écoutez. Dans la troupe du premier Starmania, donc on est en 78, je le rappelle, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur RTL, on fête les 40 ans de cet opéra rock. Alors, on l'a dit, il y a de fortes personnalités. Vous nous avez parlé de l'amitié entre Balavoine, Michel Berger et France Gall. Mais Balavoine, c'était un chambreur. Comment il surnommait France Gall?
Sergent Gall. Parce que
mal.
France Gall, il faut dire ce qui est. Hein, dans la première version, c'était la femme du patron quand même. Hein. Elle faisait pas tout ce que faisaient les autres. Et puis elle donnait des ordres. Donc Balavoine, qui en avait rien à faire du tout, l'appelait Sergent Gall un peu pour s'amuser, quoi. C'était pas méchant.
Alors tout à l'heure, on vous a demandé si vous pouviez nous passer un petit coup de main, sur les octaves de Daniel Balavoine. Alors on n'a pas d'unanimité. On a Evelyne qui nous dit qu'il avait 2,5 octaves, Alain 3,5 octaves, et le plus généreux, c'est Daniel qui lui donne 4 octaves.
Merci de votre aide, on va dire ça comme ça.
En tout cas, à partir de 2,5, c'est déjà beaucoup,
et ça,
il faut le dire.
C'est déjà impressionnant. Daniel Balavoine qui aimait bien faire des gags, et on va en raconter un avec Étienne Chicot, le comédien dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faisait souvent après le spectacle?
Alors, quand il sortait de scène avec Étienne Chicot, ils allaient, ils piquaient, alors je ne sais pas où, mais c'est l'anecdote qu'on m'a raconté, un sac en plastique avec de la neige carbonique. Ouais. Ils remplissaient la baignoire de leur loge commune d'eau bouillante. Ils mettaient cette neige carbonique et puis en fait, ça avait...
Ça
faisait de la fumée jusqu'au plafond. Ils sortaient de leur loge en disant au feu, au feu, au feu. Mais comme ils faisaient ça souvent, les pompiers, ils en avaient ras-le-bol. Ils disaient mais arrêtez les mecs, quoi. Arrêtez cette blague.
Le jour où il y a un vrai feu, ils viennent.
Mais ça les faisait marrer à chaque fois.
On leur avait pas.
Ils le faisaient quasiment tous les soirs. Hein.
On leur avait pas raconté l'histoire de Pierre et le Loup quand ils étaient petits. Non, mais c'est quoi,
exactement.
C'est dingue.
En tout cas, on savait s'amuser à l'époque. L'aventure Starmania, c'est le titre de votre livre publié chez Hors Collection François Alquier. On y découvre aussi l'histoire d'une tournée absolument improbable en URSS.
D'abord, on a découvert une génération de chanteurs qui est formidable.
14h, 15h.
Quand je fais mon show régulièrement, je commence par chanter cette chanson-là, qui est la chanson de Starmania.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous pourriez aller nous la chanter, on pourra peut-être la prendre en générique.
Sur RTL.
D'accord.
La saga Starmania sur RTL avec le journaliste culture François Alquier. On est 40 ans après sa création, je le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent sur RTL, 40 ans après la sortie de l'album. Est-ce que cet opéra rock se joue encore quelque part sur la planète?
Alors oui, récemment au Québec, ils l'ont rejoué. Ouais. Voilà, mais ce n'est pas une version officielle. C'est des gens qui s'amusent à reprendre Starmania. Il y a une version qui va être jouée à Limoges le 22 septembre prochain.
Voilà,
au théâtre de Limoges.
Pour les fans de la région de Limoges, vous pouvez vous y précipiter. C'est un spectacle qui s'est exporté, notamment en URSS, en étant 1990, juste après la chute du mur de Berlin. Et Michel Berger, il a le trac. Pourquoi il a le trac?
Parce que d'abord, qui connaît Starmania en Russie? Personne. qui connaît la langue française, ouais. Personne. Qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, ils avaient trouvé une parade, ils avaient donné un petit fascicule avec l'explication de ce qu'était Starmania en russe. Et surtout, ils savaient très bien que les Russes ne faisaient pas montre de beaucoup d'affection,
d'enthousiasme
pendant les concerts.
Mais c'est un peu froid, quoi.
C'est traditionnel, c'est comme ça, ils font ça. Donc ils avaient un peu peur aussi de jouer devant une salle qui ne réagissait pas. Ce qui s'est passé, sauf qu'à la fin de chaque spectacle, je crois qu'il y a eu 10 concerts à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Ils ont fait 10 concerts, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'entrées. Et il y avait des standing ovations à chaque fois à la fin. Donc c'était gagné.
Ils retenaient leurs émotions tout au long du spectacle et.
Mais les artistes vous le diront, c'est très troublant de jouer comme ça dans une salle silencieuse. Quoi.
26 000 spectateurs, je crois, au total pour cette mini tournée en Russie, en URSS. En tout cas, c'était encore l'URSS en 90. Merci beaucoup, François Alquier. C'était passionnant. L'aventure Starmania est publiée, je le rappelle, chez Hors Collection.
Merci, Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.